parler de nos mains, de nos mains âgées, assez âgées, disons, et qui pourtant est un homme plein de vigueur. Je voulais parler de Caleb. Ah, je ne sais pas si vous connaissez Caleb, mais on va lire quelques lignes le concernant dans le livre de Josué au chapitre 14. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai repris ce livre, j'ai recommencé à méditer sur ce livre. C'est un livre qui est formidable, hein, déjà, parce que c'est un livre plein de, je dirais, d'aventures pour ceux qui aiment l'aventure, mais en tout cas, un livre plein d'enseignements, hein, qui parle de conquête, qui parle de victoire, et qui malheureusement aussi parle un peu de laxisme et de tout ce que cela peut impliquer. Il y a un personnage, bien entendu, qui ressort, puisque c'est même le nom du livre, c'est celui de Josué, qui est, vous le savez peut-être, un type de Jésus lui-même, qui conduit son peuple dans la victoire. Et c'est bien de voir ce livre, et en même temps, ce que j'ai fait, de vous comparer un peu avec le livre des Actes. Et on trouve pas mal de similitudes aussi, fort intéressantes. Mais ce matin, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de Josué dont nous allons parler, mais de Caleb. Parce que dans ce livre de Josué, si nous avons Josué comme type, nous avons aussi des types de chrétiens, hein, en quelque sorte. Des personnages qui peuvent nous apprendre, hein, certains aspects de la vie chrétienne. Alors on lit au chapitre 14 de Josué, à partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant, voici. L'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kijat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut de l'or en repos et sans guerre. Amen. Hein, ça finit bien. Moi, j'aime bien. Hein, le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alléluia. Et ça me faisait penser, comme je vous le disais dans le livre des Actes, lorsqu'il est dit, n'est-ce pas, bien l'Église était en paix, hein, dans la Judée, etc., hein, grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On aime, hein, on aime être dans la paix. On aime quand la paix règne dans les cœurs, dans les vies, l'Église, bien sûr. Nous aimons cela. Mais la paix, eh bien, j'allais dire, elle a un coût. Non, le coût, c'est Jésus qui l'a payé. Mais la paix vaut la peine qu'on se batte pour elle. Vous allez me dire, c'est peut-être paradoxal, ça paraît un non-sens, on se bat pour la paix. Bon, le monde aussi le dit, hein, ils se battent tous pour la paix, mais bon, on sait ce qu'il y a derrière. Mais nous, c'est cela que nous voulons, gloire à Dieu. Ce matin, on va parler, si vous voulez bien, d'escalade spirituelle ou d'ascension spirituelle. Pourquoi cela? Parce qu'il est dit au verset 12, c'est donc Caleb qui dit au verset 12, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Donne-moi donc cette montagne. Et en fait, on s'aperçoit que Caleb est un homme qui n'a jamais cessé de croître. Un homme qui n'a jamais cessé, n'est-ce pas, de grandir dans les choses de Dieu. Les années ne l'ont pas fait diminuer, bien au contraire, elles l'ont fait grandir. Et j'aime bien, n'est-ce pas, quand il dit « Voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans, mais je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. » 85 ans, aussi vigoureux qu'à 40 ans. C'est formidable, ça, hein? Il y a quelqu'un de 85 ans au milieu de nous? Ah, pas loin. Ah, toujours aussi vigoureuse? Oui. On en est tous là, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais c'est formidable de voir cet homme qui est ainsi. Et en fait, on va voir trois choses. On va voir cet homme qui en quelque sorte, a des convictions et qui ne laisse pas la crainte ou les circonstances venir troubler ses convictions. Nous verrons un homme qui a été sans amertume, sans animosité aucune. Et enfin, cet homme qui est donc triomphant même dans sa vieillesse. On va parler de sa jeunesse, on va parler de la force de l'âge et on va parler donc de la vieillesse. Consistant dans sa jeunesse. Jusque cet épisode dont il parle de Kadès Barnéa, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 40 ans, puisque lui-même dit qu'il avait 40 ans à ce moment-là, jusque-là, on ne sait rien de Caleb. Et il apparaît là, donc, parmi les 12 espions, il apparaît dans la force de l'âge à 40 ans. Bon, aujourd'hui, à 40 ans, on est un vieux. Hein? Bon, à ce moment-là, peut-être, mais à 40 ans, déjà, on commence, s'il faut chercher du travail, on commence à avoir du mal. Mais lui, il est en pleine force de l'âge. Jésus, en fait, on ne sait pas grand-chose de lui, jusqu'à l'âge de 30 ans environ. On connaît sa naissance, déjà sa conception, sa naissance. C'est les récits que nous avons dans les évangiles. Bon, on sait qu'il va partir en Égypte. Et ensuite, on le voit 12 ans dans le temple, etc. Mais entre 12 et 30 ans, on ne sait rien. Alors, bien sûr, il y a eu des choses écrites, mais tout ça, c'est plus des fables et des contes qu'autre chose. En tout cas, l'évangile ne dit rien. Mais de l'âge de 30 ans à 33 ans et demi environ, alors là, on apprend tout un tas de choses extraordinaires sur lui. Les trois dernières années. Et voyez-vous, ce que cela nous apprend, c'est que les crises ne font pas la personne, mais la révèlent. Ce n'est pas dans les moments de difficulté, ce n'est pas dans les moments de crise que nous allons, en quelque sorte, forger notre caractère, si je puis dire. Mais ces crises-là, les épreuves, les difficultés ou les tentations vont révéler ce que nous sommes. Dans cet épisode de Kadès Barnéa, vous connaissez peut-être cela, c'est dit dans ce texte, c'est quand Moïse a envoyé les 12 espions pour explorer le pays de Canaan, afin d'entrer et de le conquérir. Et quand les 12 espions sont revenus, le rapport était, disons, assez mitigé. Puisque, on le sait, ils ramenaient sur les épaules, avec une perche à deux, une énorme grappe de raisin, les fruits, bien sûr, du pays. Ils diront, à la vérité, c'est en effet un pays où coule le miel, c'est-à-dire un pays d'abondance, un pays de bénédiction. Et le rapport semble extraordinaire, mais tout d'un coup, on change pour dire oui, mais si vous considérez déjà la grappe de raisin, imaginez ce qui les vendange. Donc ce sont des géants, à leurs yeux nous sommes comme des sauterelles, et puis ils commencent comme cela, jusqu'à ce que, littéralement ici, Caleb dit, jusqu'à ce qu'ils ont fait fondre, au verset 8, ils ont fait fondre le cœur du peuple. C'est une belle expression, malheureusement, hein, qui en dit long. Il dit « découragèrent le peuple » en français, mais littéralement, c'est « ils ont fait fondre le cœur du peuple ». Ils ont complètement découragé le peuple. On va mourir, on va se faire écraser, etc., etc., etc. Sauf Josué et Caleb qui, eux, disent « mais non, puisque Dieu nous a donné le pays, puisque nous avons les promesses de Dieu, entrons donc dans le pays ». Et c'est là que nous voyons ce qu'étaient ces deux hommes-là. Et notamment, disais-je donc, Caleb, dont on ne sait pas ce qu'il avait été jusque-là, mais on se rend compte que cet homme est un homme de conviction, c'est un homme de foi, c'est un homme de courage, parce que tout simplement, il se confie dans le Seigneur. Et son courage, eh bien, il est indomptable. Indomptable, si j'ose dire, parce qu'il dit au peuple, eh bien, faisons face. C'est des géants, les villes sont fortifiées, mais qu'importe ? Qu'importe ? Puisque c'est Dieu qui nous dit d'y aller. Et ils sont en train, Josué et Caleb, n'est-ce pas, de défendre la cause de Dieu au point que, à un moment donné, on est presque au point de les tuer, n'est-ce pas ? Et cependant, ils font face à ce peuple rebelle en continuant d'affirmer leur foi. C'est pourquoi je disais, n'est-ce pas, que Caleb est un homme de foi, un homme dont la foi est ferme et robuste. Et ce n'est pas toujours facile, hein, de se retrouver peut-être devant une majorité. Parce que vous le savez certainement, la majorité ne fait pas forcément la vérité. Ce n'est pas parce que tout le monde pense la même chose que forcément cette chose-là est bonne. Et Josué et Caleb savaient très bien que, malgré ce que disaient tout le peuple et les 10 autres espions, cela n'était pas la vérité. La vérité, c'est que le pays était à eux. Et il va faire front. Lui et Josué, ils vont faire front. Ils sont constants, disais-je, dans leur foi, consistant en quelque sorte dans sa jeunesse. Et c'est ce qui va caractériser cet homme tout au long de sa vie. Pourtant, les épreuves sont là, les difficultés sont là. Et vous le savez comme moi, le résultat de tout cela, c'est que personne n'écoute Josué et Caleb. Et Dieu tout simplement dira, eh bien, vous savez, Dieu il écoute ce que nous voulons. Et des fois, il nous donne ce que nous voulons. Et nous regrettons qu'il nous ait donné ce que nous lui demandions. Vous ne voulez pas entrer dans le pays de Canaan ? Eh bien, vous n'y entrez pas. Retourner en Égypte, évidemment, ce n'était pas possible. Et qu'est-ce qui restait entre les deux ? Le désert. Eh bien, ils vont tourner, n'est-ce pas, dans le désert. Ils vont errer dans ce désert pendant 40 ans. Jusqu'à ce que toute cette génération-là, les uns après les autres, vont mourir et décéder. Et ensuite, eh bien, la génération suivante que nous trouvons dans le texte que nous avons lu se retrouvera dans la même situation. Mais pendant ce temps, eh bien, Caleb est sans amertume. Parce qu'on n'y pense pas toujours, mais ce n'était pas facile de se retrouver 40 ans à errer dans le désert. Voyez, il reste ce qu'il a toujours été, même dans l'épreuve, même dans la difficulté. Et je disais sans amertume, dans la force de l'âge. Il y avait là, si je veux dire, dans sa jeunesse, n'est-ce pas, cette vigueur, cette force, etc. Mais dans sa vieillesse, on la retrouve. Ce n'est pas un lumignon qui fume. À 85 ans, il est resté dans la flamme de sa foi. Il est resté toujours le même. Et pourtant, pendant 40 ans dans le désert, frères et sœurs, que de contrariétés, que de fois les épreuves, les difficultés ont été là, les combats à mener. On ne voulait pas se battre pour entrer dans le pays promis, mais il a bien fallu se battre malgré tout, dans le désert contre les peuples ennemis. qui voyaient ce peuple, n'est-ce pas, s'approcher comme une menace. La faim, la soif, les jalousies, les rivalités, idolâtrie, enfin, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qui faisaient en quelque sorte presque, je dirais, le quotidien. C'est le désert. Et dans le désert, c'est pas facile. Et peut-être qu'il aurait pu, n'est-ce pas, se laisser gagner par l'animosité, par l'amertume. Mais on ne voit pas dans ce désert un Caleb anémique ou insipide qui perd sa ferveur, qui perd sa dévotion, qui finalement, eh bien, j'allais dire, rêve au confort, qui rêve bien à ce qu'il avait laissé en Égypte, comme les autres. Non, lui, il a gardé toujours, toujours sous ses yeux. Il a toujours dans sa pensée, il a toujours dans son esprit cette promesse que Moïse lui a fait et que Dieu lui a fait, qu'il entrerait dans la terre promise. Et il l'a gardé sur son cœur, malgré les épreuves, malgré les difficultés et malgré les combats. Que de foi, frères et sœurs, que de foi. Les épreuves, les difficultés, peut-être, nous ont amenés, je ne dirais pas à douter, mais quelque part à nous dire pourquoi. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu m'a dit, ou bien est-ce que c'est mon imagination qui a cru cela? Mais pas Caleb. Caleb qui, malgré tout, est condamné à errer à cause de l'incrédulité des autres. Dieu n'a pas dit, bon, écoutez, les autres, vous allez tous mourir dans le désert. Bon, Josué et Caleb, entrez. Non, ils sont partis avec les autres. Ce seront d'ailleurs les deux seuls qui s'en sortiront, évidemment, mais pendant 40 ans, ils vont errer dans le désert. Condamnés, disais-je, à cause de l'incrédulité des autres. Et on ne voit pas Caleb affecté, je dirais, ou infecté même par eh bien, cet état-là. On ne voit pas un Caleb méprisant. On ne voit pas un Caleb, n'est-ce pas, qui est plein d'animosité avec des propos amers, qui parle toujours des autres avec, n'est-ce pas, des paroles blessantes, peut-être des incrédules. Si j'en suis là, c'est à cause de vous. Si j'erre dans ce désert, c'est votre faute. Si vous nous aviez écoutés, nous n'en serions pas là. Et que sais-je, et que sais-je, et que sais-je encore? On ne voit pas d'orgueil chez lui. On ne le voit pas, n'est-ce pas, dire, vous avez vu, moi, Caleb, et Josué, à côté de vous, nous sommes des aigles, les ailes de l'aigle, et ils se traînent, n'est-ce pas, comme un chien. Parce que vous connaissez le sens du mot Caleb, ce que veut dire Caleb, c'est chien. Caleb, en arabe, sans l'accent, mais Caleb, c'est le chien. C'est un drôle de nom quand même à porter. Vous imaginez toute votre vie, on vous parle, on vous appelle chien, 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 c'est le chien, c'est mon chien. C'est, vous imaginez? Et ça aurait pu, là aussi, n'est-ce pas, créer en lui toutes sortes de problèmes. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup de tout cela. Ça vient de l'enfant, ça vient de ceci, ça vient de cela, etc. Mais lui aussi aurait pu eh bien, connaître une enfance difficile. Que sais-je, certainement, ça n'a pas dû être facile. Mais maintenant, mes amis, c'est celui qui, j'allais dire, survole tous les autres. Et pourtant. Comment a-t-il résisté? Comment a-t-il survécu? C'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, au verset 28 à 31, que nous lisons. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà comment il a résisté. Voilà comment il a survécu. Dans sa communion avec Dieu, dans cette relation, n'est-ce pas, avec Dieu. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que les années peuvent passer, que les combats, les luttes peuvent se succéder les unes après les autres, que nous pouvons sortir de mauvais pas et tomber dans un autre sans être remplis d'amertume, d'animosité, sans nous décourager, sans avoir des jugements à l'égard des uns et des autres, etc. Quand nous sommes dans notre communion, dans une communion intime avec le Seigneur. Il ne se décourage pas, au contraire. Il renouvelle leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils marchent, ils ne se fatiguent point, et Caleb vit cela, frères et sœurs. Et pourquoi ne le vivrions-nous pas? Ou peut-être même, pourquoi ne le vivons-nous pas? Car nous avons le même Dieu, que je sache. Lui n'a pas changé. Il est toujours le même. Il n'a pas vieilli. Même si certains le représentent avec des cheveux, n'est-ce pas, jusqu'aux pieds, blancs comme la neige, un pauvre vieillard qui n'en peut plus. Mais mes amis, Dieu n'est pas cela. Dieu n'est pas cela. Et si toute cette imagerie nous a créé cette image, eh bien, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est une idole, cela. Enlevons-la. Notre Dieu est toujours le même. Vous savez quel âge avaient les plus vieux dans ce texte? Quand Caleb parle, si on fait un rapide calcul, ils avaient à peu près 59 ou 60 ans. 59, 40 ans d'errance dans le désert. Et tous ceux qui avaient pris part, puisque devaient avoir au-dessus de 19 ans ou 20 ans. Les plus vieux avaient 59 ans. Et au milieu de cela, il y a un brave papy de 85 ans. C'est formidable, 85 ans. Et qui dit à Josué, donne-moi ma part. Il y a 40 ans qu'on a erré dans le désert, ça fait 5 ans qu'on est rentré là et qu'on est en train de tourner en rond, parce que 40 et 85, n'est-ce pas, si vous faites la soustraction, ça fait 45. Mais maintenant, donne-moi ma part d'héritage. 85 ans, vous imaginez, triomphant dans sa jeunesse. Sa foi, sa vigueur, son courage n'ont pas tari. Ils ne se sont pas évanouis. Ils n'ont pas disparu. Et les parents disant, oh, j'aurais bien aimé, mais comment sont les rhumatismes? Ah, j'ai les corps aux pieds. Ah, puis bon, moi, j'ai fait mon taf. À 85 ans, place aux jeunes. Enfin, que sais-je encore? Non! Non! Je veux ma part d'héritage. Et ce qui est quand même extraordinaire, au verset 12, donne-moi donc cette montagne. Il ne dit pas, écoute, je suis un peu fatigué, je vais plutôt descendre dans la vallée. Non, donne-moi la montagne, moi je vais attaquer les sommets, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'escalade spirituelle. Moi je veux la montagne. Quand on y réfléchit, c'est quand même extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé la vallée d'Escol? Puisque dans cette vallée, n'est-ce pas, il y avait la fertilité, rappelez-vous. Les produits du pays, ces raisins extraordinaires. Il aurait pu dire, écoute, à 85 ans, avec tout ce que j'ai fait pour eux, maintenant, donne-moi donc ce coin tranquille, cette vallée, etc. Non, donne-moi la montagne d'Hébron. Et quand on lit un petit peu dans les livres qui précèdent, l'histoire de ce lieu, Hébron, c'est un lieu vraiment, je dirais, typique. C'est là que Sarah a été enterrée. C'est là que Abraham a été enterré. C'est là qu'Isaac, tous les patriarches en fait, ont été enterrés là. Et c'est un lieu bien particulier celui-là. C'est le lieu en quelque sorte de la mort à soi. C'est le lieu où il y a les racines mêmes de la foi. Et c'est pour cela que Caleb dit, non, moi je veux la montagne, donne-moi la montagne. Seul dans sa jeunesse, seul à grimper dans sa vieillesse, mais avec une foi toujours aussi ferme. Vous savez, on n'est pas en train de lire là une histoire. On lit là ce qui s'est passé. Vous voyez, ce n'est pas comme la bande dessinée Astérix avec Age Canonix. Vous savez, ce vieillard avec sa canne qui veut toujours en découdre. Mais là, on n'est pas dans une bande dessinée, on n'est pas dans une histoire. C'est une vérité. Un homme de 85 ans. Un homme de 85 ans. Qui dit, moi je vais monter sur la montagne, parce que tu sais que sur la montagne, il y a les géants. C'est pas parce qu'il fait un petit peu, n'est-ce pas, de faiblesse sénile, un petit peu, je ne sais pas quoi, se rendant pas compte des choses, hein, où Josué doit dire, mais attends, tu ne réalises pas, mais il y a des géants, là, il y a des villes fortifiées, il le sait, tu sais que là, il y a des géants, tu sais que là, eh bien, il y a des villes fortifiées. Mais je suis toujours aussi, excusez-moi l'expression, mais je suis toujours aussi viril spirituellement, ou comme physiquement aussi. 85 ans, mais pas en chausson, mes amis. Pas en pantoufle. Il n'a pas demandé la vallée pour aller cultiver son jardin et puis près de la rivière pour aller pêcher quelques poissons. Non, il va monter sur la montagne et il va aller les affronter, n'est-ce pas? Il est même, on pourrait dire, spirituellement, il est aventureux dans le bon sens. Il n'est pas présomptueux. On pourrait dire, ouais, mais Caleb, il se prend. Non. Ce verset qui pourrait être mal compris, dit à la fin du verset 12, « L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. » Mais ça ne veut pas dire « Je ne sais pas si Dieu sera avec moi. » Non, je vous l'ai dit. Hébron, c'est la mort à soi-même. Il est mort à lui-même. Il y a longtemps qu'il est mort à lui-même. Et s'il est là, c'est parce qu'il était mort à lui-même. Alors, littéralement, c'est avec la grâce de Dieu. Ou avec l'aide de Dieu, ou avec la force de Dieu. Je ne sais pas pourquoi second a traduit « si l'Éternel le permet ». Mais c'est avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec le soutien de Dieu. Eh bien, j'irai et je remporterai cela. Je les chasserai. Frères et sœurs, nous avons tous, et vous l'avez entendu je ne sais combien de fois, des géants dans nos vies. À des moments ou à un autre. Des montagnes qui sont devant nous. Et il est sûr que si nous ne sommes pas morts en nous-mêmes, c'est la défaite. Si nous pensons être tellement spirituels, tellement agréables à Dieu, tellement fidèles à Dieu, tellement je ne sais quoi, ce qui est peut-être vrai, je ne dis pas cela, mais si nous nous confions en cela, pour remporter les victoires, mes amis, nous allons nous faire battre à plate couture. C'est la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et quand Caleb dit, moi, je vais prendre la montagne, je vais y aller, il y a les géants, tout ça, mais ce n'est pas pour dire, moi, je suis. Mais simplement pour dire, eh bien, moi, ça, c'est mon héritage. C'est mon histoire. Et cette histoire-là, je veux la garder. Et avec la grâce de Dieu, si Dieu eh bien, est avec moi, avec la grâce de Dieu, alors, eh bien, je la prendrai. Aurions-nous perdu notre agressivité, excusez l'expression, mais je trouve que parfois nous manquons d'agressivité. Je parle, si je peux le dire, spirituellement. Notre foi agressive, une foi conquérante. Parce que malheureusement, parfois, je parle pour moi certainement, la foi est plutôt une foi conservatrice. J'ai la foi pour garder ce que j'ai. et que le Seigneur ne tarde pas trop pour que je la garde jusqu'au bout. Que le Seigneur me fasse grâce, que le Seigneur me soutienne. Ô Seigneur, aide-moi. Ô Seigneur, secours-moi. Ô Seigneur, pourvoi. Et ainsi de suite, ce qui n'est pas un péché, évidemment. Mais nous devons avoir une foi agressive. Il y a un pays à conquérir, frères et sœurs. Il y a une ville à conquérir. Il y a des familles à conquérir. Et puis dans nos propres vies, nous avons un tas de choses encore à conquérir. Parfois des craintes où je ne sais encore. Je parlais d'animosité, je parlais, n'est-ce pas, eh bien de, excusez-moi de dire ça, mais de devenir insipide, anémique dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, presque, n'est-ce pas, eh bien, en nous laissant aller sur l'élan des expériences passées. Josué parle de ses expériences passées, mais comme d'un tremplin pour entrer dans les expériences à venir. Il y a 40 ans, il y a 40 ans, mais ce qu'il y a eu il y a 40 ans, eh bien, me donne aujourd'hui l'audace et l'autorité, et je dirais peut-être même, n'est-ce pas, le droit d'entrer dans ce qui est là maintenant devant moi. Seul, hélas, seul à conquérir son territoire. Parce que nous n'avons pas le temps là maintenant. Mais si nous lisions le livre, la suite du livre de Josué, si nous lisions le début du livre des Juges, nous nous apercevrions que, malheureusement, petit à petit, tout ce qui était conquis a été perdu. Tout ce qui a été conquis, n'est-ce pas, eh bien, est parti à volo. De Caleb, il est dit au chapitre 15, au verset 14, Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Shéchaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Mais quand nous lisons la suite du récit, au chapitre 18, au verset 3, Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel de vos pères, le Dieu de vos pères vous a donné ?» Négligerez-vous la négligence ? Dans le livre des Juges, alors, je ne vais pas le lire, vous lirez le premier chapitre, soulignez chaque fois qu'il est dit, n'est-ce pas, que eh bien, tel peuple n'a pas pu être chassé. Et ça commence en disant, eh bien, le peuple a vécu au milieu d'Israël. Cette tribu a vécu au milieu d'Israël. Et puis on arrive à la fin, enfin à la fin du chapitre 2, où il est dit, eh bien, Israël a vécu au milieu d'eux. Vous voyez la différence ? Ils ont laissé les habitants parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce que, etc. Alors, bien sûr, on leur a imposé, hein, un tribut, des impôts, etc. etc. On les a obligés à faire des travaux. On se consolait comme on pouvait. On se donnait bonne conscience comme on pouvait. Mais au bout du compte, petit à petit, eh bien, c'est eux qui ont habité au milieu. C'est quand même dommage. Vous vous rendez compte ? Dieu fait des promesses. Il faut entrer dans les promesses. Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Mais ça ne suffit pas. Il faut saisir aussi les promesses. Il faut s'en approprier, n'est-ce pas ? Se les approprier. Sinon, c'est l'échec. Et nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'échec, frères et sœurs. Parce que notre Seigneur n'a pas connu l'échec. Il est victorieux. Et il nous fait participer à sa victoire et à son triomphe, n'est-ce pas ? Alors pourquoi Caleb ? Pourquoi Caleb a été, n'est-ce pas, cet homme tout au long de sa vie plein de vigueur ? Pourquoi a-t-il été ce conquérant, même à 85 ans ? Eh bien, vous avez remarqué peut-être comme moi une chose qui est dite à plusieurs reprises. Dans ce livre de Josué, au chapitre 14, au verset 8, il dit, mais moi, je suivis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Mais moi, je suivis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. À la fin du verset 9, c'est Moïse. Parce que, bon, Caleb le dit, on peut toujours dire les choses. Quand c'est les autres qui le disent de nous, ça a une autre portée. C'est pas toujours vrai non plus, mais ça a une autre portée. Au chapitre 9, c'est Moïse qui dit, « En ce jour-là, Moïse jura en disant, et à la fin du verset, « Parce que tu as pleinement suivi la voix de l'Éternel, mon Dieu. » Il n'y a pas que Moïse, encore mieux. Dans le livre des Nombres, au chapitre 14, au verset 24, c'est Dieu qui parle. Et il dit, « Parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Puis il y a d'autres textes encore, Deutéronome chapitre 1, 36, on ne va pas le lire. « Il a suivi pleinement la voix de l'Éternel Dieu. » Il parle d'obéissance. Il parle de patience. Et comme je l'ai dit, ça parle de la mort à soi. La fin du mois. L'anéantissement de soi-même. Les choses vieilles qui sont passées. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, vous rappelez certainement ce texte où Paul nous exhorte justement à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici physiquement, hein, entendons bien. Vous l'avez compris, je pense, sinon vous ne seriez pas là ce matin en tout cas. Mais ce texte le dit, n'est-ce pas, d'une manière claire, que nous devons nous offrir. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce qui résume en quelque sorte la vie de Caleb. Il a suivi pleinement la voix de l'Éternel Dieu, parce qu'il était mort à lui-même. Et comme il était mort à lui-même, eh bien, il n'est pas mort dans le désert, comme un cadavre desséché, excusez-moi de dire ça. Il n'est pas mort dans le désert, comme un poireau, n'est-ce pas, qui sèche sur pied parce qu'il manque d'eau. Il était plein de vigueur. Le pays, dès lors, fut en repos et sans guerre. Est-ce qu'il y a des Caleb, messieurs, et des Caleb d'âme au milieu de nous? Je ne sais pas comment on pourrait dire au féminin, mais est-ce qu'il y a des Caleb au milieu de nous? Alléluia. Que le Seigneur fasse que nous soyons tous des Caleb. Et puis, un dernier verset, un dernier pour la route. Au chapitre 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, et mes sœurs, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci Seigneur pour les Caleb. Merci Seigneur pour ces hommes.